Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ta'ohanu, et bienvenue dans cette 7e émission.
Édition 2023.
Alors, vous souvenez-vous de notre précédente émission? Un peu? Pas trop? Bon. Rappelez-vous seulement qu'après le passage du capitaine Cook en 1774, aucun navire n'est plus passé dans l'archipel jusqu'en 1791, c'est-à-dire pendant 17 ans. 1791, année où les trois îles du Nord furent reconnues par un Américain et un Français la même année. Ensuite, deux ou trois vaisseaux par an se sont succédés, passant des îles du Nord à celles du Sud. Je profite d'ailleurs de ce moment pour signaler qu'entre le passage de Cook, en 1774 donc, et la prise de possession par la France en 1842, c'est-à-dire près de 70 ans, le nombre des navires français à faire escale aux Marquises s'élevait à 4 seulement, sur un peu plus de 300 navires recensés au total. Outre les nombreuses conséquences dévastatrices de ce contact entre étrangers et Enana, on comprend maintenant la quantité de mots d'origine anglo-saxonne rencontrés en langue marquisienne, à commencer par celui qui, selon certains, est la cause de nombreux maux de notre société, c'est le mot « money », l'argent. Nous voici arrivés en 1797. À cette époque-là, à Tahoata, c'est Tutete, le fils de Puhiputona, qui est chef des Ahutini. Les Ahutini habitent l'est et le sud de Tahoata. C'est Tainai, plus communément appelé Ouiwaina ou Ina, qui règne sur les Hema de Vaitaahu. Il était déjà en place au passage de marchands en 1791. Il est le quatrième enfant et premier fils de Honu, décédé quelques années plus tôt de mort naturelle. Tainai est un homme violent. Il a successivement trois épouses qu'il maltraite, souvent par jalousie, et dont il a au total 5 enfants, plus un qu'il avait adopté. Ce garçon, Petete, est probablement le futur Yotete. Les Enata de Tahoata s'attribuent le nom générique de Teïa. Le 5 mars, à Tahiti, c'est l'arrivée du Doff, commandé par le capitaine James Wilson, et à bord duquel ont pris place les missionnaires de la LMS, la London Missionary Society ou Société Missionnaire de Londres. Depuis lors, ce jour a pris la qualité de jour férié dédié à la célébration par les protestants de l'arrivée de l'Évangile. Après avoir séjourné presque 3 mois à Tahiti, le Doff reprend la mer en direction des îles Marquises où 2 jeunes missionnaires anglais ont reçu la consigne de s'installer afin d'y prêcher la parole divine. Le 5 juin, en fin de journée, le Doff arrive en vue de Vaitaahu à Tahoata. On sait qu'il est affrété par la LMS et à son bord se trouvent les pasteurs William Pascoe Crook et M. Harris, ainsi qu'un beachcomber suédois du nom de Peter qui avait déserté du Dédalus à Tahiti, le fameux Dédalus qui avait fait un massacre à Nukuhiva
en 1793.
Sa connaissance de l'anglais et du tahitien l'ont fait choisir comme traducteur. Il est accompagné de sa jeune femme tahitienne, Tanumanu, et il y a aussi 2 jeunes Tahitiens qui ont pris le nom de Tom et Haraoui ou Haraoué. Au départ de Grande-Bretagne, la totalité des hommes du bord avait été choisis pour leur piété. Les missionnaires qui composaient l'essentiel des passagers avaient été confirmés dans leur charge le 26 juillet 1796 dans la chapelle de Sion à Londres, devant une foule de 7 à 8 000 personnes. Le pavillon du navire représentait 3 colombes d'argent avec un rameau d'olivier sur fond pourpre.
Branche d'olivier et colombe, on ne peut pas faire plus pacifique.
À l'entrée de la baie de Vaitaahu, 2 Enata, venus en pirogue, grimpent à bord et indiquent la manière de s'approcher du rivage. À la nuit tombée, 2 femmes arrivent à la nage, mais Ne voulant pas créer de précédent, Wilson les renvoie accompagnés des deux premiers hommes. Le 6 juin, le chef Tainai arrive au navire en pirogue, accompagné de deux frères et de 7 jeunes femmes nageant derrière. Une fois à bord, il demande qu'on fasse monter l'une d'entre elles qui est sa sœur. À la vue de sa nudité, Tanomanu lui jette une cape en tarapa sur les épaules. Autour du bateau, le nombre de femmes a augmenté et Wilson les laisse monter à bord. Ayant apporté des feuilles pour s'entourer la taille, elles sont attaquées par les chèvres du bateau qui se jettent sur les feuilles pour les manger.
Après des semaines de navigation sans voir de verdure, les chèvres du navire se sont précipitées sur ces feuillages qui étaient probablement de grandes feuilles de cordyline tea.
Tainai fait cadeau à Wilson de plusieurs ornements de tête, probablement des ta'vaha, des ornements de poitrine, peut-être des titi ouoho, ainsi que d'un bâton de commandement orné de cheveux humains, peut-être un tokotoko pio'o ou to'oto'o pio'o. En retour, on lui offre une hache, une paire de ciseaux et un miroir avec sa chaînette pour l'attacher autour du cou. Ses frères ne demandent rien sauf à manger et à boire, ce qui laisse croire à Wilson qu'ils sont en période de disette. Wilson fait part à Tainai de son intention d'installer deux hommes sur place. Ravi de la proposition, Tainai demande à Wilson de le suivre à terre pour lui montrer l'endroit exact. Le capitaine descend, accompagné de Crook, Harris, Peter et Tom. Après avoir patienté sur la plage, la troupe s'enfonce dans la vallée entourée de villageois qui les abreuvent d'eau de source. Ils visitent enfin la maison du chef, dont Wilson s'étonne qu'elle soit recouverte de feuilles de toumoumé, d'arbres à pin, et non de pandanus, comme dans le sud de la Polynésie. À leur retour au navire, Crook n'a aucune objection à rester, mais Harris est plus réticent. Ils décident alors de descendre à terre le lendemain en emportant leur couchage afin de faire un essai. Aucune obligation de rester n'étant imposée, ils pourront revenir à bord en justifiant d'un manque de sécurité. En effet, les missionnaires ont le choix de rester ou non, si les conditions sont bonnes ou pas. Ils ne sont pas obligés de s'installer contre vents et marées. Le 7 juin, Wilson note des vols sur le navire, mais ne voulant pas utiliser la force pour faire restituer les larcins, il laisse tomber les poursuites. L'après-midi, Crook descend à terre sans Harris pour s'installer dans la maison de Tainai. Arrivé sur place, on leur attribue une autre maison, plus grande, sur un grand pai-pai, sur lequel se dresse une autre maison dont le devant est orné de deux tikis en bois, et qui abrite la dépouille mortelle de Honu, père de Tainai,
enfermé dans une pirogue funéraire de forme cylindrique,
entourée de bandes de diverses couleurs tressées en fibres de coco, pu'u. De longs tambours pahu et de nombreuses compositions pyramidales en roseaux, figurant oiseaux et motifs géométriques, entourent la dépouille. Crook échange son nom avec le fils aîné de Tainai, Pahivi, âgé de 7 ans. Puis il reste pour la nuit, accompagné du tahitien Tom. L'échange de noms, Ha'aikoa au nord et Ha'ainoa au sud, permet aux deux parties de partager tous leurs privilèges. En devenant Ha'aikoa ou Ha'ainoa du fils du chef, Crook fait ainsi partie de la famille du chef, avec tous les avantages que cela peut lui apporter. Donc il est déjà dans de bonnes conditions pour commencer son séjour.
Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, où Crook fut le premier Européen à vivre aux Marquises, les étrangers Hao'e étaient considérés comme des dieux par les Marquisiens qui pensaient qu'ils venaient de la Lune à cause de la blancheur de leur peau. Les familles des chefs se les disputaient et faisaient tout leur possible pour les accueillir à bras ouverts, car cela augmentait aussi leur prestige.
De surcroît, grâce à son journal, j'ai parlé tout à l'heure de l'âge de Pahivi qui avait 7 ans, c'est grâce aux notes que ce jeune missionnaire a prises que nous pouvons, aussi bien à Tahuata qu'à Nukuhiva, placer l'âge des gens et donc éventuellement imaginer la date de leur naissance. Ce qui est très précieux pour la suite de l'histoire des Marquises, évidemment.
Enana, enana oe. Enana, enana oe. Enana, enana oe. Enana, enana oe. Tuhuka, tuhuka oe. kapa tuti ki oe. Matki tiki toni no mi uka ia oe. Matki tiki, matki tiki toni no mi uka ia oe. Anau nau yatki e, mamai he e toki e. Anau nau yatki e, kanahau nui toni no e. E nana oe. E nana. Nana oe, tuhuka oe, tuhuka patutiki oe, mana mana e tua te patutiki e. Kaia pei inui o te toa nui e. E nana oe. E nana oe. Tuhuka, tuhuka oe. Kapa tu tiki oe. Anau nau yatki e. Mamai he e toki e. Anau nau yatki e. Kanahau nui toni no e. E nana. E nana oe, e nana oe, tuhuka, tuhuka oe, tuhuka, tuhuka patutiki oe.
Outre les détails sur l'âge de Pahivi et la cérémonie de Ha'aikoa Ha'ainoa, la description que donne Crook de la sépulture de Honu est très précieuse, d'autant qu'elle correspond exactement à ce qu'on peut voir sur les gravures réalisées à Taiohae, dans la vallée Me'ao, en 1804, par l'expédition russe de Krusenstern. Les tressages de forme pyramidale, les tambours, les tikis, tout ça, ça se retrouve sur cette image, sur cette gravure. La scène que décrit Crook, qui correspond à la gravure de 1804,
ressemble aussi beaucoup à la scène que l'on peut voir
sur une autre gravure réalisée à Hiva-Oa par Karl von den Steinen, le grand ethnologue allemand,
en 1897, et qui représente un hôtel de pêcheurs, Fa'e Houtu, décoré d'ornements très semblables.
Donc on voit qu'au-delà des siècles, les sites funéraires des chefs étaient ornés des mêmes objets tressés, avec des représentations d'oiseaux, d'animaux, des choses comme ça. Comme on voit maintenant, pour d'autres circonstances, des tressages extrêmement élaborés pour les fêtes de juillet, par exemple.
Et les cérémonies religieuses.
Donc ça veut dire que les anciens marquisiens tressaient des objets ayant la forme d'animaux, d'oiseaux, pour les exposer non loin des dépouilles de leur chef. Le 8 juin, tôt le matin, beaucoup de femmes montent à bord et on leur distribue du tapas tahitien. Wilson reçoit un mot de Crook lui disant que tout s'est bien passé pendant la nuit. Plus tard, ce dernier arrive à bord accompagné de Taina et de son frère. Le chef reçoit une couronne ornementale, du tissu, un marteau et des vrilles ainsi qu'une conque marine, Putooka, en échange de laquelle il est prêt à donner deux porcs, tant il est difficile de s'en procurer. Wilson écrit qu'en général, les marquisiens prêtent peu d'attention aux outils offerts, car il n'en maîtrise pas encore l'usage. À la tombée de la nuit, après avoir d'elle-même aidé les marins dans leurs diverses tâches d'entretien, les femmes rentrent à la nage, tandis que Crook rejoint la terre avec le chef et sa suite. Le 9 juin, Crook reste à terre et on lui fait parvenir du matériel. Devenu fils du chef par échange de noms, il écrit au capitaine qu'il jouit de nombreux privilèges et ne manque de rien. Monsieur Harris refuse toujours d'aller à terre. Le 13 juin, un voleur est capturé et menacé de mort avec un mousquet. Un frère de Tainai arrive en pirogue accompagné d'un homme dont le voleur est le père. Ils brandissent une feuille de bananier en signe de paix et apportent deux porcs. Devant tant de sollicitude d'un fils pour son père, Wilson fait décharger le mousquet et libérer le délinquant sans accepter l'échange de cadeaux. Le 14 juin, M. Harris est conduit à terre en chaloupe. Le 20 juin, Crook et Harris reviennent à bord pour s'entretenir avec Wilson. Harris se plaint de la pauvreté et de la nourriture de l'endroit, mais Crook est prêt à rester, même sans Harris. Le 23 juin, Tainai invite Crook et Harris à aller visiter une autre vallée. Harris refuse et Tainai lui laisse sa femme, Tipaihina, jusqu'à son retour. Le soir, évidemment, elle se rend chez Harris, qui refuse de la voir. Doutant même de son sexe, elle revient avec d'autres femmes pour vérifier in situ de ses propres mains, provoquant la terreur du pasteur qui commence à préparer ses affaires et son coffre pour descendre sur la plage, attendre de l'aide du navire, mais personne ne le voit ni ne l'entend à cause de la nuit. Le 24 juin à l'aube, les Enata dérobent les vêtements de Harris qui s'enfuit dans la montagne, complètement hébété. Un pêcheur nage jusqu'au bateau pour prévenir des événements et on ramène Harris à bord, en piteux état physique et mental. Le 26 juin, Wilson part en expédition à terre afin de repérer d'autres îles. Ils aperçoivent Wapoo, Wahuka, Hivaoa, Mohotani et Fatuiva avant de redescendre se restaurer d'un porc rôti chez Tainai. Le soir, tous retournent à bord préparer la pirogue de Crook qui, après avoir fait ses adieux à tous, rentre définitivement à terre avec des graines, des médicaments, du matériel en tout genre, une encyclopédie, de nombreux livres et une chèvre. Monsieur Harris, horrifié par les manières Enata, décide de ne pas rester, laissant ainsi Crook seul à Vaitaru. Chers amis, dans la prochaine édition, nous assisterons au départ du Duff, laissant seul le pasteur Crook sur Tahuata. Il nous racontera comment s'est passée la dernière partie de cette année 1797. Nous y verrons beaucoup de meurtres, beaucoup de victimes humaines, beaucoup de chasse à la victime humaine entre Tahuata et Hivaoa. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Merci au groupe Kawe Muetai pour la chanson Ha'atiki
qui vante les avantages du tatouage marquisien, le Patutiki. Même s'il le fait souffrir, il donne à l'homme une beauté supérieure à ceux qui ne sont pas tatoués, et fait de lui un vrai Enana, un marquisien authentique. Vous pouvez retrouver cette chanson sur mon site, accompagnée de ses paroles et de leur traduction, comme toutes les chansons du groupe Kawe'e Moetai et du groupe Kanahau Trio de Uapo. Autre chose maintenant, avant de conclure, il est important d'expliquer ma méthode de travail. Afin de m'imprégner de l'histoire des îles Marquises et des Marquisiens, j'ai passé 3 années à lire les ouvrages qui la racontent sous différentes formes, en français et en anglais. J'ai aussi pris des milliers de notes. En réalité, dans cette émission comme dans toutes les autres, j'ai détricoté tout le travail de synthèse effectué par les historiens et n'ai gardé que les dates mentionnées. Ce récit historique se compose donc d'une suite chronologique de dates et de faits, même si par endroits, j'expose aussi ma propre opinion et donne quelques points de synthèse. Concernant les chansons marquisiennes intercalées au cours des émissions et dont je viens de parler, mis à part les 4 premières, j'ai choisi de les diffuser en entier, par respect pour les artistes et afin de vous les faire connaître et de vous faire profiter de morceaux souvent peu connus. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf. Kopo, K-O-P-O, ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai o oaiho.